Quand j'ai découvert votre livre, il est tout de suite entré dans ma catégorie des ouvrages que j'ai envie de prendre dans mes bras.
Je pense que tout le monde doit pouvoir être touché par ces images de famille qui ne sont pas les nôtres, en fait.
J'ai vraiment ce rapport très affectif au livre.
Ça m'a soulevé des souvenirs de ma propre enfance, de ma propre famille.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Les histoires de migration sont des histoires délicates à écrire. Elles brillent souvent par leurs trous, leur absence de nom, leur flou dans les dates. Les récits qui pourraient les nourrir, il faut aller les chercher, défier les silences, collectionner les images, parfois même les plus petites, substituer à la vulnérabilité des corps en transit, la détermination de celles et ceux qui veulent savoir. Les deux livres au programme de votre book club aujourd'hui témoignent de cette quête. Dorothée Myriam Kellou revisite le côté algérien de son histoire, donc de la autre, tandis que Jean-Marie Donat en écrit une à partir des photomatons du mythique studio Rex de Marseille. Vers 15h50, comme chaque jeudi, nous prenons des nouvelles du livre En dehors de nos frontières. Et aujourd'hui, c'est Mathieu Galthié qui nous appelle de Tunis pour nous parler de l'apparition du dialecte d'Erja dans la littérature tunisienne. En fin d'émission, on cherche de la musique dans les livres et on en trouve, ça c'est grâce à vous. Voilà, vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Dorothée Myriam Kellou.
Bonjour.
Votre livre Nancy Kabylie, apparu aux éditions Grasset, soyez la bienvenue dans le Book Club. On peut dire que vous êtes une petite familière quand même de France Culture, parce que vous produisez des documentaires pour cette chaîne, notamment sur la thématique des camps de regroupement en Algérie, qui est très présente dans votre livre. Bonjour Jean-Marie Donat.
Bonjour.
On pouvait voir votre grande et si belle exposition Ne m'oublie pas, aux rencontres de la photographie à Arles cet été. C'était pour les chanceuses et les chanceux, mais je sais qu'ils furent nombreux et nombreux. Mais les livres, c'est magique, et donc il en existe un très beau catalogue aux éditions d'Elpire Filigrane qui range, je trouve, merveilleusement grâce à ce travail, même si j'ai des souvenirs comme ça de cet été où on entrait presque dans les photographies grâce au très grand tirage. Bienvenue à vous dans le Book Club. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. On fait le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lecteurs et des lectrices. Est-ce que quelqu'un veut commencer? C'est vous qui êtes désigné, Dorothée Myriam Kellou. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire?
J'ai appris à lire à l'école, à Nancy, et je me souviens de la première fois que j'ai réussi à lire vraiment un livre en entier, c'était Émilie Joly, et j'étais extrêmement fière, et je l'ai dit à ma mère qui m'a dit « mais tu le connais par cœur maintenant
!» Et c'était vrai ou vous lisiez vraiment?
C'était un mélange des deux.
Mmh. Quand vous vous souvenez de cette fierté, c'est une fierté qui plutôt a trait au fait de réussir à faire quelque chose, quelle que soit la chose qu'on fait quand on est enfant, ou il y avait vraiment l'idée de accéder à un monde qui s'ouvrait par les pages, par les mots?
C'était d'être capable de tisser une histoire à partir de ces mots qui étaient pour moi au départ difficiles à déchiffrer. Et donc c'était vraiment cette satisfaction de donner un sens à ce papier.
Est-ce que vous avez été ensuite une enfant lectrice?
J'ai pas été une très bonne lectrice, je dois dire. J'ai en fait beaucoup hésité dans mes lectures jusqu'à l'âge de, je dirais, 17-18 ans. J'étais pas une très bonne élève en lecture, je dirais. Mais j'ai toujours aimé les mots, par contre, très sensible à l'oralité. Et j'aimais collectionner des mots comme ça qui me plaisaient.
De quelle manière vous le faisiez ?
Dans ma tête, voilà, je passais plusieurs minutes le soir à me rappeler des mots que j'avais pu entendre et comment ils résonnaient en moi. Donc, je me fabriquais mes propres histoires comme ça à partir de l'oralité.
Alors, vous notez l'âge de 17-18 ans, ça veut dire qu'il y a un retour vers le livre à ce moment-là ou une arrivée dans le champ des livres à ce moment-là?
Je pense plutôt une arrivée où je me rends compte que c'est un lieu de réflexion et de construction personnelle et d'enrichissement. Et donc, je ne le vois plus comme une obligation scolaire, mais plutôt comme une possibilité de liberté. Et là, j'apprends un peu à papillonner. J'ai l'art de ne pas finir les livres.
Mais c'est un art, en effet. Souvent, on le présente comme une tare, mais c'est un art de ne pas finir les livres.
Et donc, parfois, de recréer plein d'histoires avec plein de bouts de livres que j'ai lus. Voilà, c'est cette liberté-là que je pense que je me suis autorisée à revendiquer à cet âge-là.
Et qui est toujours votre façon de lire ?
Oui, je butine pas mal. Mais par contre, il m'arrive d'être complètement prise par un livre et de lire en très peu de temps. Mais voilà, c'est des instants rares.
Je parlais des mémoires à trous, des récits comme ça, de trajectoires migratoires qui sont souvent faites de choses qui manquent. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont manqué à l'adolescence ou jeune adulte, Dorothée Myriam Kellou?
Je pense que ce qui m'a manqué, c'est peut-être le livre que j'ai écrit. Parce que, enfin, je l'ai écrit aussi dans le but de transmettre, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a été une démarche très intuitive et finalement, j'aurais aimé qu'on me raconte que je n'étais pas seule, en fait, dans cette quête qui était presque obsessionnelle à l'adolescence. Il y a vraiment eu ce désir de transmettre à cet endroit-là pour un collectif.
Il y a une question du questionnaire qui se demande quel livre vous aimeriez offrir à la jeune femme que vous étiez à 20 ans. Alors, sans que ça puisse paraître prétentieux, ce serait peut-être le livre que vous avez écrit aujourd'hui qui lui ferait du bien, qui lui ferait gagner du temps.
Je pense que j'offrirais Hisham Mattar, The Return, que j'ai lu en anglais. C'est La Terre qui nous sépare, un anglo-libyen qui était le fils d'un grand opposant à Kadhafi. Et qui part en quête de son père qui a disparu dans les geôles libyennes au moment de la révolution de 2011. Et pour moi, voilà, c'est l'intersection entre l'intime et le politique et une manière de raconter l'histoire qui m'intéresse. Donc, je pense.
Et qu'aurait fait du bien à la jeune femme que vous étiez à 20 ans?
Oui, parce que en fait, je prenais une direction en partant vers le Moyen-Orient où j'aurais compris que j'étais moi-même en quête dans ce territoire et que. J'avais pas besoin de tant douter que ma place était juste dans ces pays que je traversais.
Jean-Marie Donat, est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ?
Non. Bon, en revanche, je me souviens très bien des lectures de ma mère, qui me disait des petits livres pour enfants, mais le souvenir de lecture, d'apprentissage, je n'en ai pas. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que je me souviens de répéter et de lire les livres de manière intuitive, sans en comprendre les mots, parce que ils m'avaient été racontés des dizaines et des dizaines de fois.
Elle vous lisait quoi comme histoire, votre mère ?
Ah, écoutez, il y a un livre qui m'est resté. Alors, c'est souvent des livres pour enfants, donc c'est des livres avec des images. Mais ceux qui me plaisaient le plus, c'était des livres avec des photos. Et il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Là-haut sur la montagne. Donc c'est l'histoire d'un jeune berger avec tous les animaux de la montagne. Voilà. Donc c'était vraiment des grandes photos, légendées. Et l'autre, un thème incroyable, c'était Les animaux de la ferme.
Les animaux de la ferme, ouais.
Et le truc qui était super dans Les animaux de la ferme, c'est que c'était une toute petite édition qu'on achetait dans les petits supermarchés et la légende avait été mélangée et le chat était devenu le dindon. Voilà.
Ça, je donc ça faisait en plus entrer un sentiment d'inquiétante étrangeté dans une lecture de toute jeune enfance.
Donc, il faut que je vois un dindon, je pense à un chat maintenant.
Puisque vous parlez de photographie, il y a une autre question de ce questionnaire qui se demande s'il existe une photo de vous, un livre à la main, tout âge confondu.
Non, de moi, non, il n'existe. Enfin, peut-être, mais en tout cas, je l'ai pas dans mes collections et loin de là dans mon album de famille. En revanche, j'ai une photo de ma mère en train de lire. Alors, c'est une histoire, je vais la raconter, elle est un petit peu longue, mais elle me tient à cœur. Ma mère était une lectrice assidue. Elle lisait essentiellement Télé 7 jours. C'était vraiment la lecture hebdomadaire. Et l'été, elle dévorait la série noire. Et j'ai une photo de ma mère aux vacances, couchée, enfin dans le lit avec une série noire. C'est mon père qui prend la photo. La série noire, c'est Eva de Chandler, Raymond Chandler, et le livre. Lorsqu'on regarde bien la photo, elle est tenue à l'envers. Alors je connais ma mère. Ma mère est pas très facétieuse, elle est plutôt de tendance un peu triste. Donc, je trouvais ça assez étonnant de sa part d'essayer de faire un petit truc un peu rigolo avec un livre. Mon père prend la photo. Là-dessus, lorsque la maison familiale est vendue, je récupère l'ensemble de la bibliothèque que je range chez moi. Et il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, je range mes séries noires. Je retombe sur Eva, le livre. Je le sors, c'est le livre de ma mère, je le regarde, il était broché à l'envers.
Oh là là.
Donc
elle lisait presque, tout à fait à l'endroit.
Elle lisait à l'endroit, il n'y avait aucune facétie dans cette histoire-là.
Vous avez gardé cette photo?
Oui, je l'ai toujours, bien sûr. Elle est même double, il y a deux photos, une floue et une sous-ex.
Est-ce que vous diriez que c'est une photo rare néanmoins de votre mère en train de lire, même si elle était assidue?
Oui. Alors, mon père était imprimeur, donc le livre a une grande place dans notre famille, mais pas du tout pour le goût de la lecture, mais plutôt mon père avait une merveilleuse bibliothèque, c'était un peu son CV. Il rangeait les plus beaux livres qu'il avait faits, qu'il avait imprimés, sans jamais les ouvrir.
Donc la fabrication lui importait.
C'était vraiment ça. Et moi, c'est pareil. Hein. Je suis éditeur, donc le fond et la forme sont très 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 importants. Non, à la maison, on convoquait plus, Guy Dux que Gaston Gallimard.
Et vous concernant, Dorothée Myriam Kallou, la place du livre, on va dire, dans l'enfance, dans les endroits de votre enfance, c'était laquelle?
Moi, j'ai une mère qui lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle dévore les livres, en fait. Ça m'impressionnait d'ailleurs, cette capacité à lire. Et puis, j'ai une sœur qui est devenue médiathécaire et qui, petite, s'amusait à ranger les livres par ordre alphabétique. Et donc, j'étais habituée à emprunter des livres.
Vous étiez la cliente de la médiathèque de votre sœur, c'est ça?
Vous disiez bonjour, oui, je peux emprunter ce livre. Oui, mais j'ai retrouvé une très belle photo, puisqu'on parle de photos, de mon père à Mansoura, en Algérie. Il avait 14-15 ans, il avait un livre dans les mains. Et finalement, c'est la seule photo que j'ai de lui enfant. Et ça rejoint en fait des anecdotes que j'ai recueillies quand je suis allée dans le village pour tout ce travail de documentation. On me disait, ton père, c'était celui qui lisait. Mmh. Il avait toujours un livre dans les mains et il se tenait contre le mur pendant que nous, on pouvait jouer et lui lisait. Et voilà, donc je pense...
Et il lit quoi sur cette photo?
Je sais pas. Mais
il lit en tout cas. Et ça dit quelque chose de lui.
Et regarde l'objectif en faisant mine de lire. Donc il y a déjà un art de la mise en scène.
De lui-même en train de faire cet acte-là. Bon, c'est pas étonnant quand on voit le personnage qu'on rencontre ensuite dans votre texte. On va parler de vos deux ouvrages à vous, juste après un peu de musique. Hasard, des heureux hasards. Colin Gruel, qui réalise l'émission aujourd'hui, avait envie de vous faire entendre un extrait de l'album Unplugged de O2N, sorti en novembre. Et figurez-vous qu'ils seront ce soir en concert sur l'antenne Amis de FIP, donc vous pourrez aussi les écouter live.
Mes mains sont belles, elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés. Je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi, portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces. Il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades. 8h35, assez de pourliche pour casser une graine, un café noir et un sandwich. Chez la mère Eugène, y a plein de sous l'eau, assommé au comptoir. Il compte les histoires, il compte les goulots. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Camion. Le ciel est triste, je trie des pommes. Décharger les camtars, les muscles exultent. 9h15, le boss tout frais arrive et scrute. Il s'en fait pour son argent, il fait vivre des familles. C'est ce qu'il me dit quand je fais tomber une paire de mangues. Ses pompes disent le contraire, elles brillent au fond du container. Elles disent que j'ai mauvais goût d'avoir des pulls avec des trous. Transpalette, grand balai, je reste fier de ma race ferroviaire. Les ongles noirs, le gris du quai, le rouge des fraises dans la tête, le vert des poires. Le vendeur me casse les glandes, il aime pas bien la couleur du préparateur de commandes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Camion. Le ciel est triste, je trie des pommes. Camion. Le ciel est triste, je trie des pommes. Fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes. Fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes bleues fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes bleues fuchsia.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui, deux livres qui font acte de présence dans votre book club, l'un avec des photos, l'autre avec des mots. Dans les deux cas, il s'agit de se tenir là où les histoires, avec un grand H, avec un petit H, sont marquées par l'oubli. Dans le grand récit des humains qui se déplacent, les enjeux de transmission intime recoupent souvent des enjeux de mémoire collective et de narration politique. Des historiennes, des historiens, des sociologues, des romanciers, des poétesses montrent depuis des années que les deux échelles se télescopent. Dans votre livre, Dorothée Myriam Kellou, c'est tout à la fois l'histoire fort singulière de votre famille, de votre père, qu'une histoire plus collective, évoquant notamment les camps de regroupement en Algérie pendant la guerre de libération. C'est une histoire qui se dit, enfin, on pourrait dire. Et dans le travail dont témoigne votre livre, Jean-Marie Donat, c'est l'histoire de la ville de Marseille, mais aussi l'histoire du quartier de Belzunce, mais aussi l'histoire du studio Rex, mais aussi l'histoire silencieuse et mystérieuse de chacun des visages qui fixent l'objectif. Il ne s'agit pas dans les deux cas de se laisser engluer par le passé, mais bien de trouver une place et une place digne pour dire sa vie. On continue d'évoquer avec vous ces deux livres, Jean-Marie Donat et Dorothée Myriam Kellou. On peut commencer par ce nom et ce prénom, Dorothée Myriam Kellou. Vous parlez des tirets dans votre vie, des astérix, des manières de relier comme ça des mondes qui pourraient apparaître différents, séparés, opposés. Est-ce que ce livre-là vous a permis peut-être de mieux les assumer, de mieux les comprendre, ces tirets ?
Oui, effectivement, en fait, quand je suis allée en Algérie pour la première fois avec mon père, ma sœur, mon beau-frère, j'avais 20 ans. Et mon père m'a présentée comme Myriam. Donc Myriam, c'est mon deuxième prénom. Et j'ai une vie qui a commencé à exister avec ce deuxième prénom. Et en fait, après, je l'ai intégré. J'ai continué mes voyages, mes études en Égypte, en Palestine et aux États-Unis. Et à chaque fois, j'aimais donner ces deux prénoms en disant « je suis Francie Jezerie ». Franco-algérienne. Et donc ce trait d'union, je l'ai regardé et pour moi, il ressemblait aussi à une forme de négation. Et donc j'ai imaginé autre chose, donc cet astérix qui permet de multiplier, de parler de l'enrichissement en fait, et de ne pas être l'un moins l'autre, mais l'un multiplié par l'autre. Donc voilà, je me suis amusée avec ces appartenances.
Vous parlez dans ce livre d'une quête, vous parlez aussi de la place singulière dans les familles que certains ou certaines ont, qui sont celles et ceux qui vont écrire l'histoire, ou la dire, ou la chercher, ou la raconter. Peut-être vous êtes celle-ci dans la famille qui est la vôtre, Dorothée Myriam Kellou. Alors quelle a été la quête et peut-être avec quelles questions vous vous êtes mis en route ?
Je pense que la première question, mais elle n'est pas consciente, je dirais à l'âge de 14 ans, c'est pourquoi je ne parle pas l'arabe, la langue du pays de mon père. Et à ce moment-là, je n'ai pas encore formulé pourquoi je ne parle pas le kabyle, en fait, et qui est la langue maternelle de mon père. Et donc, il y a tout ce désir d'apprendre l'arabe. Et très vite, je commence des cours d'arabe au collège, puis au lycée. Et je négocie avec des professeurs parce qu'en fait, il n'y a pas de cours au lycée où je suis. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression de voler en fait des heures par-ci, par-là pour me réapproprier une langue que j'ai décidé être la mienne. Et en fait, c'est un chemin que je poursuis autour de la langue arabe d'abord. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a aussi l'histoire de cette région qui m'intéresse. Et je poursuis entre mes études en sciences politiques, puis en arabe au Caire. Et puis, c'est quand je suis en Palestine que je travaille à ce moment-là pour le Quai d'Orsay que je documente l'occupation militaire. Je le fais dans plusieurs langues, en français, en anglais, en arabe, que j'arrive finalement à l'histoire de mon père Il y a l'histoire de l'Algérie coloniale. Et finalement, c'est ce que je cherchais depuis le début. Mais j'ai dû prendre tous ces détours pour y arriver.
Quelle est la réponse que vous donne votre père et peut-être vos parents à la question « Pourquoi je ne parle pas arabe ?» ou « Pourquoi je ne parle pas kabyle ?»
Alors, mon père me dit « Mais tu parles la langue de ta mère. Mm-hmm. » On dit la langue maternelle, donc c'est le français, puisque ma mère est française. Mais moi, ça ne me convient pas comme réponse.
Oui, vous lui répondez « Oui, mais je ne parle pas la langue de ta mère. »
Voilà. Donc, il y a une mère qui disparaît dans l'histoire. Et puis, j'en ai parlé avec ma mère récemment à la sortie du livre. Et elle me disait, mais tu sais, moi, j'insistais beaucoup pour qu'il te parle kabyle. Et en fait, je pense que c'est aussi l'histoire de l'exil et l'histoire de la coupure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon père aurait aimé, et il le dit, nous transmettre l'arabe algérien, le kabyle. Mais en fait, comment faire ? C'est difficile hors contexte de transmettre. Et puis, il y a quelque chose d'un peu forcé aussi. Donc, il m'a longtemps, en fait, parlé un petit peu comme ça, en espagnol, en italien, mais il n'y avait pas de mots de kabyle. Et aujourd'hui, il commence à introduire parfois des mots de kabyle ou des mots d'arabe. Mais je sens que ça lui coûte. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ça le renvoie aussi à un pays qu'il a quitté. Peut-être qui est une douleur, quand même. Donc,
ne pas la parler, cette langue-là, et c'est souvent renseigné, notamment vous citez le nom de ce très grand sociologue Abdelmalek Sayad, mais ensuite, après lui, et heureusement, il y a une littérature qui s'est enrichie sur toutes ces questions-là. Parfois, ne pas la parler, c'est faire le pari qu'en ne parlant pas, on ne transmettra pas la douleur qui va et avec l'exil et avec l'arrachement. Souvent, c'est un pari qui marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, ne pas parler cette langue-là, c'est transmettre quand même la douleur. Alors, vous dites, ma première question, c'est celle-ci. Et la deuxième et la troisième. C'est-à-dire que vous allez de question en question. Peut-être que le livre avance aussi de cette manière-là. Une fois que vous avez quelques réponses ou bribes de réponses sur pourquoi vous ne parlez pas ces langues, qu'est-ce qui vous met en route et qu'est-ce qui vous interroge?
Bah, ce qui m'interroge aussi, c'est le contexte en fait français politiquement, c'est-à-dire pourquoi des exilés ne transmettent pas leur langue, leur mémoire. Qu'est-ce qui peut bloquer en fait cette transmission? Et puis après, j'en arrive à des questions plus historiques, plus politiques sur la silenciation, sur notamment la période de l'amnistie après la guerre, et puis ce qui est empêché de dire, en fait.
Des deux côtés de la Méditerranée, vous stipulez bien que cette politique de l'oubli, elle n'est pas que française. Nous, on en parle ici parce que c'est aussi un objet de politique intérieure, mais vous dites bien tout l'enjeu que c'est aussi d'un point de vue mémoriel en Algérie.
Oui. Alors, effectivement, j'en parle. Après, je ne l'ai pas autant approfondi parce que j'ai grandi en France et c'est dans ce pays que je suis ancrée et où je vis au quotidien. Mais c'est vrai qu'en Algérie, il y a aussi une histoire officielle qui efface et qui efface notamment la petite histoire subjective. Et ça, je l'ai vraiment compris quand j'étais dans le village de Mansoura et que j'essayais de recueillir des témoignages. Souvent, je dis, mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti intimement, profondément? Et puis, j'avais d'abord le discours, je dirais, voilà, un peu officiel, le FLN contre l'armée française. Et puis, c'était des lignes un peu générales. Et je dis, mais toi, là-dedans. Et j'insistais. Et il y a un homme, un jour, qui m'a dit une phrase en arabe, qui m'a dit, Astaghfirullah min qawlat ana. Et en fait, il s'excusait auprès de Dieu d'oser dire je. Et j'ai compris aussi la difficulté à dire la subjectivité. Et ça explique aussi des censures personnelles au-delà du politique. Donc il y a de raisons multiples en fait à ce silence qui est collectif.
Le Book Club, c'est une communauté de lecteurs et de lectrices, d'auditeurs et d'auditrices. On va écouter Elena qui a lu votre livre et qui vous adresse une question.
Bonjour Book Club, bonjour Dorothée Myriam Kellou. Quand j'ai découvert votre livre, il est tout de suite entré dans ma catégorie des ouvrages que j'ai envie de prendre dans mes bras. J'ai vraiment ce rapport très affectif au livre qui me marque notamment par leur profondeur et j'ai tout de suite saisi la dimension universelle que je trouve dans chaque pages de ce récit intime, et c'est d'autant plus saisissant pour moi que mon histoire, mes origines et mes cultures sont très loin de l'univers de celui de livre. Pourtant, ça résonne en moi, comme quoi, voyons, on fait tous partie du même univers. Je suis assez touchée par votre capacité de soulager la douleur de votre père, mais aussi de toute personne qui a la peine de porter ce fardeau de l'oubli et de silence. Et donc je vois cette puissance réparatrice dans votre livre et j'entends un appel d'être fière des cicatrices, d'aller au-delà dans cette quête identitaire, dans ce combat pour, quand vous dites, sortir l'épave de l'oubli. Et cette réflexion m'amène à ma question. Est-ce que le retour sur le lieu de la blessure est incontournable, selon vous? Et si le retour n'est pas possible, alors où chercher finalement ces sources de réparation? Je vous remercie beaucoup.
C'est nous qui vous remercions, Elena, pour cette très belle question et pour cette très belle lecture, au passage, du livre de Dorothée Myriam Kellon. Est-ce que le retour sur le lieu de la blessure, déjà c'est très beau, je trouve, de dire les choses de cette manière-là. Vous avez parlé du village, Mansoura. Est-ce que c'est impérieux? Est-ce que c'est obligatoire? Et quand on peut pas, puisque je trouve qu'Elena, c'est assez beau l'idée de dire que finalement le trajet que vous décrivez est un trajet qui peut tout à fait peut-être concerner d'autres mémoires et d'autres blessures, quand on peut pas aller sur place, quel chemin s'offre, puisque vous les empruntez finalement aussi?
Oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de détours avant d'arriver à l'endroit de la blessure. Parce que je pense qu'il faut s'y préparer aussi, c'est bouleversant comme voyage. Après, ce sont des questions d'ailleurs que beaucoup de jeunes femmes que j'ai pu rencontrer autour du livre me posent. Mon père ne peut pas me parler, il ne peut pas me raconter, ou mon père est déjà décédé, comment faire ? Alors bien sûr, si c'est possible, c'est de retourner sur les lieux et de retrouver en fait d'autres ancêtres qui pourront nous raconter. Et parfois, l'accès au pays n'est plus possible ou la mémoire a disparu. Et finalement, c'est là que je pense que tout ce travail d'écriture par d'autres devient si important. Et puis après, il y a l'universalité. Moi, c'est vrai que je suis passée par la question palestinienne pour comprendre la situation de l'Algérie coloniale et d'avoir été à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, de... au quotidien, documenter la question du déplacement forcé, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée ensuite à comprendre ce qui a pu être vécu intérieurement par mes ancêtres.
Quand on l'entend aussi parler de la dimension universelle, c'est-à-dire que quand vous écrivez cette histoire, vous savez que vous écrivez les deux échelles en même temps, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes presque au plus proche de votre père, de sa voix, de ses silences, des chansons qui vont être égrenées, des mots, en même temps que la grande question des transmissions entre générations. Je disais aussi, j'ai essayé de trouver cette grande formulation de la grande histoire des humains qui se déplacent. Enfin, vous voyez, que vous savez que vous allez chercher aussi cette échelle-là?
Oui, je pense que c'est un miroir, en fait, dans lequel on voit idéalement le très près et le très loin. Mmh. Et c'est aussi cette capacité à réinscrire l'intime dans la grande histoire et d'aller chercher dans la grande histoire pour comprendre l'intime. Et moi, je pense que c'est un mouvement comme ça permanent. C'est ce qui m'intéresse, en tout cas, pour tisser les histoires.
Avant d'aller à Mansoura, vous savez quoi des histoires de camps de regroupement?
En fait, au départ, je ne sais rien. J'ai étudié l'histoire de la Nakba palestinienne, de l'exode forcé en 1948. Et puis, je prends ce cours aux États-Unis sur l'histoire de l'Algérie coloniale. Et puis, ce professeur que je nomme aujourd'hui et que je remercie, qui s'appelle Oussama Abimarshed, qui m'invite à creuser du côté de l'oubli. Et je découvre cette histoire des déplacements forcés, des regroupements de population pendant la guerre d'Algérie. Et je trouve les quelques livres qui ont été publiés sur le sujet, Bourdieu et Sayad, Le déracinement en 1964, puis Michel Cornaton. Voilà, il y a une littérature qui a existé sur le sujet, mais qui est finalement peu connue. Et c'est avec cette matière-là que je pars à Mansoura.
On écoute la voix de Michel Rocard qui parle de ses déplacements pendant la guerre d'Algérie.
On s'est mis à déplacer des populations rurales par villages entiers. Il y a eu beaucoup de manières de faire. Quelquefois, on a convier tout un village à se regrouper avec un autre village, en prenant le temps et en préparant l'opération. Quelquefois, on a déplacé en bloc des gens dans une zone où il n'y avait rien et où on avait mis des bâtiments préfabriqués. D'autres fois, et malheureusement trop souvent, à la veille ou pour permettre des opérations militaires, une unité rebelle, comme il disait, une unité du FLN étant repérée dans le coin, l'armée demandait qu'en urgence, c'est-à-dire en une heure, tout le monde dans les camions, on évacue la population pour l'emmener n'importe où, sous tente, sous bâche. Et dans les deux premières années, tout ça commence au début de l'année 1957 apparemment, dans les deux premières années, l'opération était purement militaire, elle n'était pas prévue ni prise en charge, il n'y avait pas de crédit. Or, les autorités militaires ne se sont pas rendues compte, ou elles ont oublié, c'était pas leur problème, qu'en procédant de la sorte, on coupait ces gens de leurs champs, de leurs récoltes, de leurs troupeaux, et même de leurs volailles et de leurs lapins.
J'obtiens une entrevue avec le général Maurice Fèvre, auteur d'un livre sur les camps de regroupement. L'homme me reçoit chez lui. Il se racle la gorge. Il évoque les camps de Harkis dans le sud de la France. Je veux qu'il me raconte d'autres camps, les camps de regroupement. Il me parle de village, n'utilise jamais le mot camp. Il se racle à nouveau la gorge. Est-il gêné par sa version de l'histoire ? Il soutient que les regroupements étaient vecteurs de promotion sociale. Les femmes étaient libérées de la corvée d'aller chercher l'eau à la source. L'eau arrivait au village. Elles se plaignaient parfois d'être privées d'occasions de sortie, concède-t-il, mais l'armée les autorisait à organiser des fêtes. Pourtant, le temps était plus au deuil qu'à la célébration. Qu'en était-il des hommes ? Beaucoup se sont enrôlés dans l'armée française. Ils sont devenus harkis, me répond-il. Pour survivre ? Non, par attachement à la France. Un dernier raclement de gorge. Je le salue et me retire. Je suis sonnée. C'est le coup de poing du déni.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Club où on évoque votre livre Nancy Kabylie, Dorothée Myriam Kellou. Jeanne Alléos vient d'en lire un extrait. On voit bien de quoi est fait ce texte-là. On vous voit au travail. On vous voit en train d'enquêter et d'être en quête. Alors à la fois là par des entretiens auprès de ce général, mais aussi des dialogues avec votre sœur, la famille en Algérie, votre père évidemment, vous-même aussi. Il y a une forme de dialogue assez important. Peut-être on peut rentrer dans le dur de cette question-là, puisque c'est là où votre quête rejoint une question politique et historique plus large. Vous disiez « je connais pas grand-chose en arrivant à Mansoura ». Qu'est-ce qui se dévoile lors de ce voyage ?
Qu'est-ce qui se dévoile ? Beaucoup de choses. Et je crois que c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire le livre, parce qu'au départ, j'en ai fait un film avec mon père et j'ai pris tellement de notes pendant la réalisation de ce film, de tout ce qui me traversait émotionnellement. Mais ce que je comprends, en fait, c'est... le niveau de destruction, en premier lieu, du tissu social, des conséquences de l'arrachement, de la perte à la fois mémorielle, identitaire que ça implique.
On l'entendait dans la voix de Rocard, c'est que parfois c'est en une heure, en deux heures, qu'on prend un village entier, qu'on déplace de centaines de kilomètres, et que d'un seul coup, c'est vraiment un arrachement au sens quasi physique du terme.
Oui, et parfois, en fait, le déplacement était pas très loin. Ça pouvait être quelques kilomètres. Mais ce qui m'a intéressée, par exemple, pour le village de El Hamra, qui a été regroupé à Mansoura, c'est que finalement, ça a été ressenti quand même comme un exil. C'est-à-dire qu'on quitte la terre de ses ancêtres, la protection qu'apportait la présence de ses ancêtres enterrés sur ces terres, tout ce lien très puissant à la terre et puis à la nature comme cosmos. Et donc il y a un bouleversement très profond et on est jeté comme ça dans une modernité de tente ou de maison en ciment mal construite. Et donc il y a cette perte, parce que en plus il n'y a pas récit de cette perte. Ce que je dis souvent, c'est que contrairement aux Palestiniens qui ont beaucoup documenté l'histoire de leur exode forcé, les Algériens l'ont très peu fait en fait. Et l'histoire de ces exils est peu racontée. Et pourtant, ça a touché plus de 2 millions d'Algériens. 3 millions si on compte ceux qui ont dû quitter ces zones interdites et se loger parfois dans des bidonvilles ou ailleurs. Mais voilà, c'est une errance collective qui raconte et qui a eu des conséquences en termes de déracinement sur l'Algérie contemporaine très importante.
Dans les archives, vous montrez bien, avec l'usage des archives, que c'est une opération militaire très pensée et qu'il s'agit aussi de démanteler complètement une société algérienne qui pourrait être derrière son armée de libération et de fragiliser un tissu le plus possible dans un moment de guerre. Et il me semble que c'est aussi quelque chose que fait votre livre, c'est-à-dire de porter un éclairage sur quelque chose qui est assez peu raconté, même y compris dans le récit qu'on peut faire aujourd'hui de la guerre de libération en Algérie. On va évoquer votre livre, Jean-Marie Donat. On va se déplacer de ce village ou de ces villages algériens jusqu'à un quartier très précis de Marseille.
Je pense vraiment que chaque personne est unique et en cela très important, et qu'en même temps les gens disparaissent très très vite. Et qu'on peut se souvenir de son grand-père, mais pas de son arrière-grand-père. Et donc, il y a cette sorte de questionnement, comment des gens aussi extraordinaires que tous ceux qui nous ont précédés sont aujourd'hui totalement oubliés. Et on dit parfois qu'on meurt deux fois, une première fois, et puis une deuxième fois, quand votre photo, plus personne ne peut vous reconnaître sur cette photo. Et hélas, les gens, quand j'utilise les images, plus personne en gros peut les reconnaître.
J'espère que vous avez la ref, comme on dit. Meilleure manière d'évoquer le quartier de Belzunce à Marseille avec Bouga, mais aussi la voix de Christian Boltanski, cet artiste qui évoque l'usage qu'il fait, lui, de la photo et des noms disparus. C'est toute l'histoire de votre travail « Ne m'oublie pas », Jean-Marie Donat, donc on pouvait découvrir à Arles cet été aux rencontres photographiques, et qui existe aujourd'hui dans un très beau livre publié par Delpierre et Filigrane. Alors, Belzunce, il s'y trouve ce studio, et c'est aussi l'histoire de ce studio, avant même l'histoire des visages que vous nous racontez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisque vous dédiez ce livre à une figure importante, c'était celui qui faisait les photos.
Grégoire. Ouais. Oui, alors pour dire, Boltanski m'a beaucoup suivi dans cette histoire, et c'est vrai que j'ai souvent pensé à lui. Le quartier de Belzunce, c'est un quartier qui est coincé entre la gare Saint-Charles et le Vieux-Port. C'est le quartier de l'immigration. Les bateaux arrivent au Vieux-Port et les immigrés trouvent place dans le quartier de Belzunce. Dans le quartier de Belzunce, à côté de la porte d'Aix, il y a le studio Rex. Le studio Rex est créé entre les deux guerres, dans les années 1925, par Assadour Kessayan, qui arrive d'Arménie. Il fuit le génocide, toute sa famille y est décimée. Il arrive à Marseille, il travaille dans les sucreries et très vite devient l'assistant d'un grand photographe marseillais. Il crée le studio, petit studio de quartier, comme il en existait des dizaines et des dizaines un peu partout à Marseille et dans les grandes villes ou dans les petites villes également. Au départ, Assadour photographie non pas l'immigration, mais les troupes coloniales. Goumier marocain, tirailleurs sénégalais, et tout ce travail pendant des années, c'est le travail du petit studio de quartier. Le fils Grégoire reprend la main avec sa sœur.
En quelle année?
Juste après la guerre, je dirais dans les années 1960. Mmh. Et à partir de 62, l'immigration maghrébine, subsaharienne et comorienne, pas mal de Comoriens arrivent à Marseille. Et en fin de compte, le studio Rex est juste à côté d'un centre administratif qui s'appelait la Maison de l'étranger. C'était un centre qui permettait aux arrivants de faire leurs papiers papiers, carte de séjour, permis de travail.
D'où la quantité de photos d'identité dans le fond.
Et donc, énormément de photos d'identité. Le studio Rex avait deux spécialités. Donc, la photo d'identité qu'il photographiait avec la vieille chambre photographique d'Assadour, avec laquelle il pouvait faire 8 photos sur des 13-18. C'est un matériel archaïque, mais de très très bonne qualité. Ils ont dû, en l'espace d'une vingtaine d'années, faire un petit million de photos, je pense. Hein. Dans ce que j'ai
pu... C'est très émouvant, le fait que vous disiez ça. Je sais pas, un petit million de photos.
Oui,
de
non, mais parce que, on peut pas vraiment savoir. Assadour et Grégoire, ce qui est très intéressant dans ces photos que j'appelle de proximité, c'est qu'il y a aucune notion artistique. Tous les 10 ans, ils prenaient le matériel, ils le brûlaient dans le jardin parce qu'ils avaient pas de place. Pour eux, ils faisaient pas œuvre de mémoire, loin de là. Et donc un petit million, peut-être 2 millions, on peut pas vraiment savoir. Dans ce que j'ai récupéré, j'ai plus de 200, 250 000 portraits. Aujourd'hui, je les ai recomptés. Ça fait tourner la tête.
Ouais, ça fait tourner la tête. Alors, qu'est-ce qu'on voit, Jean-Marie Donat? Qu'est-ce qu'on voit dans ce fond que vous constituez? Parce qu'en fait, faire un livre, c'est choisir, c'est agencer, c'est raconter une histoire avec ces photos d'identité.
C'est mettre en musique. 3 typologies de photos. Sauf à moi, quand je récupère cette archive, j'ai mis 12 ans à la récupérer et travailler avec. Les premières photos, c'est ce que j'appelle les photos de portefeuille. Ce sont des photos qui traversent la Méditerranée d'Afrique vers Marseille, vers la France. C'est des photos que les hommes, pour la plupart, ont dans leur portefeuille, dans leur valise. C'est les amis, c'est la famille.
Donc c'est pas fait au Studio Rex?
Pas celle-ci. Ils arrivent avec. Ce sont les photos de portefeuille. Arrivés au Studio Rex... Ils font leurs photos d'identité, les photos administratives. Ces photos sont des photos faites en France et à rester en France. Mais en même temps, ils déposent des photos de portefeuille pour en faire des retirages, des agrandissements, des duplicata, des photomontages. Grégoire adorait mixer les photos, c'est très émouvant. Il les coloriait, il les colorisait au pastel. Ça, c'est la troisième, on va dire, typologie de photos qui découle de la première. Et la dernière, c'est les photos de studio, des photos qui pourraient s'apparenter un peu aux photos de Malik Sidibé, par exemple.
Donc c'est plus mise en scène, il y a un mini-mobilier.
C'est merveilleux.
Il y a un effort d'habillage.
Ouais, exactement. Les hommes arrivaient sur leur 31, vraiment habillés à l'européenne. Ils avaient une envie de modernité.
Parfois une femme louée pour l'occasion.
Voilà, exactement. C'était la question que je posais à Grégoire. Et l'anecdote me plaît. L'homme faisait une photo avec une femme du quartier pour l'envoyer au pays, pour montrer qu'il avait réussi, qu'il avait trouvé une épouse. Et alors, la plupart du temps, ça marchait, mais souvent, la femme arrivait avant l'homme pour récupérer la moitié du tirage. Et l'homme, on se retrouvait avec un bout de photo, la femme ayant récupéré son portrait. Il y a ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il pose avec les attributs du succès. Le poste de radio,
le costume,
le très beau costume, l'attaché caisse, voilà. Donc toutes ces photos-là racontent cette petite histoire
qui est censée être racontée au pays. C'est bien là, et on est encore du côté finalement d'Abdelmalek Saya qui parlait de la double absence, c'est-à-dire vraiment l'idée de l'histoire qu'on veut raconter au pays qu'on a quitté. C'est-à-dire ici tout va bien, et comme vous l'écrivez dans le livre, il ne s'agit pas du tout de poser pour raconter un travail harassant, un travail d'ouvrier, une fatigue et une solitude. Il s'agit de dire, j'ai finalement eu raison de partir, regardez, j'y arrive.
J'ai réussi. Grégoire me disait que plusieurs fois, les hommes arrivaient, ils se collaient des billets de banque sur le front. Ils laissaient dépasser des billets des poches pour montrer que tout allait bien. C'est tout allait bien, je rentrerai bientôt, je vous enverrai un mandat. C'est l'histoire de l'absence.
Quand vous interrogez Grégoire et donc cette grande figure du Studio Rex et que vous lui dites mais quand même ce regard, cette dignité des femmes, l'air parfois comme ça triomphant des enfants, la grande douceur ou la grande mélancolie de certains regards d'hommes, vous le regardez avec le prisme de l'histoire, justement, de tout ce qu'on sait de la migration maghrébine en France. Et lui, il a une façon très prosaïque de parler de ces images, qui détonne un peu, mais c'est aussi intéressant.
C'est quelqu'un que il nous a quitté en début d'année, quelqu'un qui m'a beaucoup touché, parce que très direct, il disait, écoutez, Jean-Marie, mais ces hommes regardaient l'objectif. Donc, ils n'avaient pas l'habitude de faire de photos. Ils étaient fiers. Ils posaient dans leurs plus beaux atours. Il n'y avait aucun problème. Ils ne se posaient pas la question d'écrire l'histoire. Loin de là. À la fin, les dernières fois que je l'ai rencontré, quand il a vu qu'effectivement, les rencontres allaient faire une très belle expo, que dès le pire allait produire un très beau livre, il était fier. Il ne le disait pas, mais sa compagne lui avait dit, tu vois, Grégoire, je pense que ton père serait fier. Et là, j'ai vu vraiment qu'il prenait toute conscience de tout le travail qu'ils avaient fait tous les trois.
Évidemment, c'est aujourd'hui, vous le disiez, peut-être 1 million, peut-être 2 millions. Il n'y a pas 1 million de photos dans le livre, mais il y a l'idée d'une foule. Et c'est vraiment l'idée d'une foule silencieuse dont les noms nous manquent, dont les vies nous manquent, qui existe à travers ce livre qui s'appelle « Ne m'oublie pas ». Je voudrais qu'on écoute une question de Mathieu qui a vu l'exposition et parcouru le livre.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. J'ai lu ce bouquin que j'ai adoré, qui m'a touché. Et même si j'ai personnellement pas d'histoire d'immigration ou d'exode dans ma famille, à part peut-être celle d'un exode rural, ni de perte de mémoire ou d'avoir perdu un peu de la culture de mes ancêtres, ce qui m'a vraiment touché dans ces images, c'est un peu leur portée universelle. Je pense que tout le monde doit pouvoir être touché par ces images de familles qui sont pas les nôtres, en fait. C'est un peu comme d'autres vies que la mienne. Et pourtant, moi, ça m'a soulevé des souvenirs de ma propre enfance, de ma propre famille. Ces images, elles sont à la fois intimes et maintenant, grâce à votre travail, elles sont redevenues publiques parce que vous les refaites circuler. Et il y a d'autres gens qui les voient, comme moi, et qui se les approprient comme de nouveaux supports de mémoire un peu. Et je trouve ça un peu magique. Et j'ai une question que je me pose depuis cet été, depuis l'expo, depuis que j'ai le livre. C'est, est-ce que des gens se sont reconnus dans les images? Est-ce que vous avez eu des descendants ou bien des enfants qui sont photographiés, dont l'image est publiée, et qui vous ont contacté pour vous dire « Ah, c'est moi, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère ». Et si oui, est-ce que vous les avez rencontrés? Et est-ce que vous leur avez rendu les portraits qui sont les leurs? Voilà, ça m'intéresse de savoir ça, s'il y a du lien, s'il y a du suivi dans cette histoire. Merci pour votre réponse et bravo beaucoup pour votre travail.
Bah surtout merci à vous Mathieu pour cette question, Jean-Marie Donat.
Merci Mathieu. Non, la réponse est non. Aujourd'hui, personne n'est revenu vers moi pour me dire qu'effectivement il avait rencontré reconnu un aïeux. L'exposition n'est pas très loin de Marseille, elle est à Arles. Elle était à Arles, mais c'est quand même beaucoup de kilomètres et je suis pas sûr que beaucoup de Marseillais, enfin en tout cas de ces personnes qui pourraient reconnaître des gens de leur famille ont fait le déplacement. En revanche, l'exposition va être en itinérance à Marseille l'année prochaine à partir du mois d'octobre. Ah. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai le plaisir, j'adorerais retrouver des personnes qui puissent me raconter l'histoire. Parce qu'en fin de compte, des photos non documentées sont la porte ouverte à tous les fantasmes. Et j'aimerais bien avoir des belles histoires. Ça me ferait plaisir de rencontrer ces personnes. Je leur donnerai bien sûr les photos de leur famille.
Mais justement, je rebondis sur la question de Mathieu, Jean-Marie Donat, parce que votre livre s'ouvre sur le statut de ces photographies. Et vous multipliez les questions avec des réponses, c'est-à-dire la réponse du juriste, la réponse du commissaire d'expo, la réponse de l'éventuel descendant, la réponse de l'éditeur, à qui appartiennent ces images, la réponse du commerçant, qui va dire après tout, c'est moi qui les ai faites, je les ai fabriquées, elles m'appartiennent. Parce que c'est aussi qui détient cette mémoire, à qui elle est destinée, comment on la raconte. Alors, vous n'avez pas une seule réponse, vous, à apporter. Néanmoins, j'imagine que ça vous questionne, vous, en tant qu'éditeur, en tant que personne qui manipule des images.
Oui, spécialement sur cette archive.
Bah oui, j'imagine.
Spécialement sur cette archive, parce que c'est une archive qui vient d'un seul endroit. C'est une archive récente. Donc avec des possibilités de reconnaissance, Je dirais, alors, aujourd'hui, en photo vernaculaire, il y a en gros deux écoles. Il y a ceux qui disent la photo appartient à tout le monde et ceux qui disent la photo n'appartient à personne. Moi, je dirais que la photo appartient aux personnes qui ont envie de s'en nourrir, d'en faire quelque chose.
Oui, qui répond dans la valse des questions et des réponses, qui répond la photo appartient désormais à celui qui veut raconter ou celle qui veut raconter l'histoire?
Je dirais que c'est moi, ouais. Souad qui a fait l'interview. Oui, c'est tout à fait ça. Après, il faut être très très regardant et très respectueux de ces personnes qu'on ne connaît pas et de ce qu'on va raconter. Ces images parlent d'elles-mêmes. Moi, je prends pas parti, je donne à voir. Et pour moi, la photo d'amateur appartient aux personnes qui ont des choses à raconter.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Restez avec nous, Jean-Marie Donna et Dorothée Myriam Kellou. C'est l'heure à laquelle nous prenons le jeudi des nouvelles du livre, mais cette fois en dehors des frontières. On a été beaucoup en dehors des frontières aujourd'hui, mais on y retourne. Lecture sans frontières est aujourd'hui en Tunisie, où la littérature en derja, la langue parlée des Tunisiens, ne cesse de se développer. Il n'existe pas de statistiques sur le poids de ces livres, mais son engouement est palpable. Cette littérature vient combler un manque. Décidément, c'est aussi le sujet du jour. Ces lecteurs, surtout des jeunes, apprécient de retrouver retranscrits sur la page leurs mots de tous les jours, tandis que les auteurs se sentent de plus en plus libre d'évoquer des thèmes sensibles. Mathieu Galthié, vous êtes le correspondant de Radio France à Tunis. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors tout d'abord, la derja, est-ce que c'est une langue ou est-ce que c'est un dialecte? C'est des questions très importantes quand on parle de ces sujets-là.
Oui, en effet, pour l'État, c'est un dialecte, car il ne reconnaît que l'arabe comme langue officielle. Mais pour les 12 millions de Tunisiens, il s'agit de leur langue maternelle. À l'école, les cours se déroulent en arabe et en français, mais à la maison, dans la rue, la derja est sur toutes les lèvres. Elle traduit l'ouverture de la Tunisie à travers le temps. La derja emprunte à l'arabe, bien sûr, mais également au punique, à la mazire, au turc, au français, à l'espagnol et à l'italien.
Et alors pourquoi la littérature tunisienne a longtemps été réticente, finalement, à s'emparer de cette langue ?
Eh bien, à l'indépendance en 1956, il fallait revendiquer l'appartenance de la Tunisie au monde arabe. L'arabe est également la langue sacrée du Coran. Il n'était donc pas question de la mettre en concurrence. Dans les années 60, l'écrivain Béchir Raïef a eu recours à la derja pour rendre les dialogues de ses romans plus réalistes. Il s'est alors fait insulter dans les journaux et dans la rue par les tenants d'une littérature classique. Mais la révolution a permis à la derja de gagner ses lettres de noblesse. Des auteurs y ont vu le moyen de vraiment retranscrire le quotidien du pays et d'aborder des sujets tabous. Ramzi Cherif, président de l'association Derja, qui milite pour sa reconnaissance comme langue officielle, se félicite de cette entrée dans le monde de l'édition.
Chaque année, il y a de nouveaux livres qui sortent et ça, c'est un très bon indicateur. Il y a des livres comme ceux d'Annie Cézine qui parlent un petit peu d'actualité. Emira Sharfeddine qui a parlé d'un sujet assez tabou en Tunisie, de l'homosexualité par exemple. Il y a d'autres livres qui parlent un petit peu de contes anciens. On trouve de tout finalement. C'est vrai que la majorité parle d'histoires réelles, de faits de société plus qu'autre chose. On est vraiment fiers d'être arrivés à ça et aujourd'hui, on parle finalement de langue tunisienne, on parle vraiment de littérature tunisienne. Il viendra un jour, on dirait, c'était tellement évident pourquoi on a perdu tout ce temps.
Comme vous l'avez dit Marie, il n'existe pas encore de statistiques officielles sur la part des livres en derja. Mais selon les libraires interrogés, la progression est de 10 à 15% par an depuis 2020.
Ce qui est quand même conséquent. Alors votre interlocuteur à l'instant a mentionné plusieurs autrices et auteurs. Est-ce qu'il existe des personnes qui sont plus reconnues que d'autres, des sortes de vedettes en la matière d'utilisation du derja ?
Oui, tout à fait. La plus célèbre est Faten Faza. Chacun des romans de l'autrice de 38 ans s'écoule à une dizaine de milliers d'exemplaires. Dans la principale librairie du pays, Al-Kitab, deux de ses livres se classent dans les 20 meilleures ventes depuis la rentrée. Faten Faza, qui a commencé à écrire sur les réseaux sociaux, est en tête de gondole à chaque nouvelle parution. Son père, un journaliste et éditeur très connu, a d'abord cru à une lubie. Pour Faten Faza, installé aujourd'hui en Allemagne, écrire en derja était une évidence.
Je ne peux pas m'exprimer dans une autre langue, je ne peux pas écrire en arabe littéraire, ni en français, ni en anglais, ni en allemand. Pour moi, c'est ma langue maternelle, je n'y ai même pas pensé. Tout d'abord, il y a des gens en Tunisie qui sont incapables de lire un livre en français ou en arabe littéraire, ou qui n'ont pas l'envie aussi de lire en arabe littéraire. Donc, le fait d'écrire en déja a fait que les gens qui ne lisaient pas avant ont commencé à lire.
Dans ses livres, l'autrice dissèque les problématiques qui peuvent toucher les jeunes femmes tunisiennes d'aujourd'hui. Le harcèlement de rue, la difficulté des vies des mères célibataires ou la prostitution. Comme tout phénomène nouveau, il a ses détracteurs qui dénoncent des œuvres au style plutôt plat et volontairement provoquant pour attirer les lecteurs.
Alors comment font les autrices et les auteurs pour écrire en derja qui emprunte à des langues qui ont des alphabets différents? Comment ils font concrètement sur la page?
FIP partiellement résolu grâce aux nouvelles technologies. La derja est surtout écrite en alphabet arabe, mais ce dernier n'inclut pas certains phonèmes tunisiens. Les claviers virtuels permettent de créer des lettres correspondantes. Ainsi, le son P, qui n'existe pas en arabe, s'écrit avec la lettre arabe B, à laquelle on a ajouté deux points. Faten Faza explique, par exemple, n'écrire que sur son téléphone. L'association de Ramzi Sherif met, elle, à disposition un logiciel pour télécharger un clavier 100% derja. Les éditeurs se sont mis à cette typographie pour attirer de nouveaux lecteurs et ils sont potentiellement très nombreux. Selon une étude parue au printemps, 67% des Tunisiens n'ont, hormis le Coran, aucun livre chez eux.
Eh ben, c'est intéressant tout ça. Merci beaucoup Mathieu Galthié. On peut réécouter votre chronique sur Lecture sans frontières, franceculture.fr. Il y a beaucoup de musique dans votre livre, Dorothée et Myriam Kellou. C'est quelque chose qui ponctue votre récit. Et ici, l'émission se termine par le grand jeu des pages musicales. On demande à nos auditeurs et nos auditrices de chercher de la musique dans les livres. C'est notre auditrice Camille qui a trouvé un extrait dans le livre de Mehdi Ouraoui. C'est sorti en cette rentrée littéraire aux éditions Fayard. C'est un livre qui s'appelle Mon fantôme et il met en scène la rencontre du narrateur Mehdi avec la figure du musicien franco-algérien Rachid Taha. Nous, Méditerranéens, nous avons un gros problème avec la mer, non? Mare Nostrum, Mater Nostra. Quand j'étais enfant, on me surmenait parfois Méditerranée, ou Médicament, ou Médis-moi tout. Je souriais poliment. En arabe, les Égyptiens surnomment leur pays Oum el-Dounia, la mer du monde, rien de moins. Eglal Fahri gérait le New Morning en Mater Familias, avec les deux fils de son second mari. Ce dernier était juif, elle chrétienne, donc Nasser les avait chassés après la guerre des six jours contre Israël. Déracinés, arrachés à la mère patrie par le père de la nation. Le père de Taha, lui, écoutait la BBC, première radio occidentale à passer des programmes en arabe. Des heures d'Oum Kalthoum résonnaient dans les Vosges. Oum, mère en arabe. C'est étrange comme prénom. Est-ce que les parents d'Oum Kalthoum savaient que leur fille deviendrait la mère de la musique arabe ? Quand je m'oxyde du manque d'Orient, qu'aucun soleil ne me mène vers des chasses aux yeux perçants, qu'aucun vent ne vient d'Aden pour me sabler le champagne, je zoome sur Oum et ça me désoriente.
Quand je m'oxyde du manque d'Orient, le soleil ne m'emmène vers des chats aux yeux perçants, qu'aucun vent ne vient d'Aden pour me sabler le champagne, qu'aucun tapis ne m'envole sous les barrières, les montagnes, sous les barrières, les montagnes.
Merci beaucoup Dorothée Myriam Kellou. Je rappelle le titre de votre livre Nancy Kabili tout simplement aux éditions Grasset. Un grand merci à vous Jean-Marie Donat. Le titre de votre livre Ne m'oublie pas, paru aux éditions Filigrane Delpire. Au son aujourd'hui c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Colin Gruel. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Oriane Delacroix, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Léa Weissgruss, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr. Et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'appli Radio France. Bel après-midi sur Culture.